Vous écoutez l'émission One Competence for Future.
Déjà, mon vrai nom, c'est Elias Marion Mission. J'avais toujours envie d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Et aujourd'hui, au travers d'Alza Zara, je pense que je réalise vraiment ce rêve que j'ai toujours eu. Et quand je vois aujourd'hui des gens, des clients qui viennent laisser des avis positifs, qui sont très ravis du service qu'on leur offre, je me dis, voilà, on est sur le bon chemin, il n'y a pas de problème, on peut continuer.
Bonjour et bienvenue, je suis Richemond Apogan de Trafiquant Média. Dans cette émission, je vous propose de découvrir le parcours de jeunes compétents et talentueux de la francophonie qui essaient de réinventer, d'apprendre et de mieux vivre de leur métier grâce à Internet. On y parle essentiellement de leur parcours, leur philosophie, leur projet et de ce qui fait de leur métier un métier du futur. Et vous allez voir tout de suite que c'est assez intéressant. L'émission est une première étape du projet One Competence for Future, conduit et dirigé par Trafiquant Média dans l'objectif de former les générations futures aux compétences du futur. Vous y apprendrez méthodes et stratégies pour faire votre propre chemin sur le marché de l'emploi et surtout pour tenir dans tout ce brouhaha du monde numérique. Ici sur Trafiquant Podcast, nous parlons aussi d'analyse de campagne marketing, de social media, de trafic et d'audience ciblée. Tout ça dans le seul but de vous aider à dénicher les meilleures stratégies de croissance grâce au web et aux réseaux sociaux. Si vous avez quelques minutes d'attention à nous accorder, vous pouvez passer d'agréables moments d'écoute et de partage de connaissances avec notre hôte du jour. Sinon, toutes nos ressources sont disponibles à l'adresse www.trafiquant.com. C'est le moment de vérifier le branchement de vos écouteurs. Cherchez un petit calepin à côté et nous vous souhaitons une bonne écoute. Deuxième épisode de votre émission sur les compétences du futur. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous un jeune créateur de start-up tech ici chez nous, avec déjà 4 à 5 produits pertinents sur le marché depuis 2019 et une base d'utilisateurs de plus de 40 000 personnes en Afrique et partout dans le monde. Je veux nommer ici Monsieur Elias Elima de Alza Zara, start-up qui déploie des solutions tech pour offrir aux Africains les moyens de se développer. Évidemment, c'est avec le CEO de Alza Zara qu'aura lieu cet échange. Je ne vous le cache pas, c'est la cour des grands, mais habité ici par des jeunes engagés et aux ambitions débordantes. Avec lui, nous parlons de start-up, de produits, de solutions, de l'Afrique, des compétences du futur et plein d'autres choses. Je sens que ça va être un peu long, donc on peut commencer tout de suite, si vous le permettez, bien sûr. Alors, bonsoir Elias, j'espère que tu vas bien.
Bonsoir Richemond, j'espère que toi aussi tu vas bien. Moi, je me porte super bien.
Super, moi aussi je vais bien. Alors, bienvenue dans le podcast Trafico. C'est vrai que nous avons pris pas mal de temps pour aboutir à une séance comme celle-ci, mais je pense essentiellement que cela a tout son sens parce que plus ou moins nous sommes tous très occupés. Et évidemment, c'est autour de ce projet que nous allons discuter, voir comment on identifie, on développe une solution adaptée à des cibles essentiellement africains, comment on procède autour le marketing derrière l'équipe et surtout ce que je ne sais pas encore et que je voudrais bien savoir, ce serait aussi les compétences que tu as acquises au cours de cette aventure. Donc, je ne me permettrai pas vraiment de dire que tu as déjà réussi une équipe 4 à 5 produits pertinents. Ce n'est pas petit non plus. Pour le genre de catégorie dans laquelle tu places ton entreprise aujourd'hui, je veux parler de start-up, ce genre de réussite, il n'est pas encore terrible. Est-ce que tu as envie de continuer à développer des choses ou tu voudras te concentrer pour faire évoluer certains produits jusqu'à épuiser les canaux d'acquisition ou carrément tu préfères vendre le produit et donner un peu de temps libre à ton équipe et pouvoir continuer par mériter cette place de solutionnaire? Voilà autant de questions autour desquelles on va essentiellement discuter. Donc, j'espère plus ou moins que tu t'es préparé vraiment pour nous aider à comprendre le fond du domaine des startups, un peu comment ça marche et nous éclaircir un tout petit peu sur ça.
Oui, ok. Donc, déjà, merci de m'avoir invité pour ce projet. Moi, c'est un projet que j'ai vraiment apprécié parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est utile de partager l'expérience qu'on a avec d'autres personnes et voilà, il n'y a pas de problème, je suis prêt et tout, ça peut aller.
Super. Déjà, petite parenthèse avant de commencer, pour quelqu'un qui te découvre pour la toute première fois, c'est qui Elima aujourd'hui?
Alors, pour quelqu'un qui me découvre aujourd'hui, déjà, mon vrai nom, c'est Elias Marion Mission. Bon, généralement, je me fais appeler Elias Elima sur les réseaux sociaux et tout. Alors, pour quelqu'un qui me découvre aujourd'hui, je dirais que je suis le CEO d'Axazara et en parallèle, je suis étudiant en troisième année de marketing et communication.
Super. Alors, tu parles en fait déjà de CEO, je ne sais pas si c'est une fonction, mais je sais quand même que tu es lié d'une équipe et tout ça. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment ce que tu as rêvé de freelance?
Bon, moi, particulièrement depuis mon enfance, j'avais vraiment cette envie, j'avais toujours rêvé de pouvoir quand même créer des trucs, avoir de l'impact dans la vie des gens, peu importe la manière dont cela allait se structurer ou allait se passer. Mais j'avais toujours envie d'avoir un impact positif dans la vie des gens et tout. Et aujourd'hui, au travers d'Axazara, je pense que je réalise vraiment ce rêve que j'ai toujours eu, celui de pouvoir avoir de l'impact au quotidien dans la vie des personnes autour de moi. Voilà.
D'accord. Au fond, à quoi ressemblent un peu tes débuts dans l'aventure? Pourquoi et quand est-ce que tu as démarré avec cette aventure?
Pourquoi? Principalement parce que, comme je l'ai déjà dit, c'est cette envie de vouloir changer les choses, de pouvoir avoir de l'impact. Et comment cela a débuté? Cela a débuté principalement par mes premières aventures à l'école, lorsque j'étais au cours primaire, où j'avais déjà entrepris des initiatives avec des amis, des petits projets. Après cela, c'est beaucoup plus concrétisé quand j'étais arrivé au secondaire où j'ai mis en place une petite structure avec des amis pour distribuer des gadgets électroniques et en parallèle de cela, on offrait des formations sur les B.A.B.A. du numérique, comment accéder à Internet, comment utiliser Internet, etc. Donc, il faut déjà dire que j'ai passé mon enfance dans un petit village au centre du Bénin. Et à cette époque, il n'y avait pas vraiment cet accès au numérique n'était pas vraiment assez intensifié comme aujourd'hui. Donc, c'était un peu comme ça l'aventure a commencé. Et très vite, on était devenu une équipe quand même non négligeable, à peu près une vingtaine, une trentaine de personnes. Et voilà, après, l'aventure n'a pas trop bien continué. Il y a eu d'autres aventures pour que j'en sois là aujourd'hui.
D'accord. Et voilà, tu as parlé un peu de processus, comment est-ce que tu en es arrivé là aujourd'hui? Et moi, je voudrais bien savoir qu'est-ce qui a pu bien te convaincre à continuer par essayer. C'est-à-dire que si logiquement la première aventure que tu as essayé, ça n'a pas marché, tu as essayé, tu as appris du processus, tu t'en as fait en fait des acquis pour continuer, qu'est-ce qui vraiment a fait ta motivation à continuer aujourd'hui avec ce même domaine?
Alors, ce qui a fait vraiment ma motivation à continuer aujourd'hui, c'est de voir l'impact que ce que je fais a au quotidien dans la vie des gens. C'est ce qui me motive le plus et qui me dit en fait, voilà Elias, je suis le bon chemin. Parce que je me dis que quand on fait quelque chose, à la fin, il faut pouvoir faire un bilan et se dire, est-ce que ce que je suis en train de faire a un impact dans la vie des personnes? C'est le plus important. Ça ne sert à rien de mener un projet, de gérer une équipe et qu'à la fin, il n'y ait rien qui ait changé, que ce soit dans la vie des personnes qui sont autour de toi directement, c'est-à-dire ton équipe, ou des personnes qui bénéficient ou qui ont accès à ces services ou produits que tu proposes. Et quand je vois aujourd'hui des gens, des clients qui viennent laisser des avis positifs, qui sont très ravis du service qu'on leur offre et tout, je me dis voilà, on est sur le bon chemin, il y a vraiment de l'impact qui suit et donc il n'y a pas de problème, on peut continuer.
D'accord, je vois, et surtout parlons toujours de motivation, est-ce que du côté en fait de la famille, des parents et tout, il y avait eu quand même un certain nombre de soutien vraiment pour toi dans ce sens où comment est-ce que tu as géré en fait, ce côté-là, surtout pour vraiment ceux-là qui ont des rêves, qui veulent bien accomplir quelque chose. Il y a souvent cet aspect où les parents disent, voilà, moi je veux que vous fassiez ça, je veux que vous alliez à l'école, je veux que vous fassiez tel, vous fassiez tel, pendant que l'autre a d'autres rêves, pense mieux faire de l'occulté et tout ça. Je suis curieux de savoir comment est-ce que tu as pu analyser ça.
Alors, bon, déjà c'est un peu un problème général et en général dans notre milieu quand les gens ont des idées, des projets et tout, les parents immédiatement ne comprennent pas cela parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a une grande différence d'époque. Les parents, ils ont grandi dans un certain environnement avec d'autres réalités. Aujourd'hui, nous, on est dans une nouvelle ère avec d'autres réalités et il y a forcément des choses que nous, on voit que nos parents ne voient pas. Mais au final, moi, on ne peut pas en vouloir aux parents parce qu'un parent ne veut que ce qui est bien pour lui. Mais le problème, c'est que très souvent, les parents vont penser que leur choix ou leur décisions sont ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, alors qu'au fond, peut-être, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Donc moi-même, j'ai eu ce problème, c'est que déjà au primaire, au secondaire, il y avait vraiment cette mésentente entre moi et mes parents par rapport à ça. Je me rappelle par exemple qu'au cours primaire, il y a mon père qui était allé voir le maître pour lui dire, Elias et ses amis font telle chose et tout, et il a parlé de ça, et un jour, le maître m'a frappé à l'école à cause de ça en disant, toi, ton papa m'a dit que tu fais ci, tu fais ça et tout, et on voudrait pas que tu continues comme ça et tout, il faudrait que tu te concentres sur tes études. Pourquoi? Parce que mes parents, pour eux, il fallait que je me concentre sur mes études, que j'ai de bonnes notes à l'école et que j'ai un bon diplôme pour pouvoir avoir un très bon job demain, ce que tout parent voudrait d'ailleurs à son enfant, et forcément ça cadrait pas. Mais après, quand j'étais arrivé au secondaire, après que j'ai eu le bac et j'étais revenu au Bénin, j'ai eu le bac en Côte d'Ivoire, j'étais revenu au Bénin, mes parents m'ont proposé une formation en analyse biomédicale. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, c'est un métier prometteur, à la fin t'es technicien de laboratoire, tu peux vite te faire embaucher par un laboratoire et tout, et avoir un job et un petit salaire et réussir ta vie tranquillement. Bon, forcément, moi, j'avais pas ce rêve, cette envie de me retrouver dans ce milieu parce que j'aime pas trop côtoyer tout ce qui est médecine. Bon, ça me cherche. Personnellement, ça me kiffe pas trop, et donc j'étais vraiment dans une sphère où les choses sont passées très vite, où malgré ce que je disais, en fait, on n'essayait pas de me comprendre. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, j'ai commencé la formation. Mais durant les un an que j'ai fait dans cette formation, ça a été vraiment des moments très très durs pour moi. C'était vraiment dur parce que j'appréciais pas la formation. Les horaires de cours ne me permettaient pas vraiment de faire quoi que ce soit en dehors de l'école. Et à la fin, c'était un peu très compliqué. Mais ça a été aussi un bon moment pour moi de pouvoir me former, de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et donc, à la fin de l'année, lorsque j'étais reparti en vacances chez les parents, je leur ai dit, écoutez, moi, l'année prochaine, je ne veux plus mettre pied-analyse biomédicale. Je veux changer de filière et faire une formation qui cadre vraiment avec mes envies, ma passion et tout. Donc c'était encore des discussions et tout, et finalement ils se sont dit ok, puisque le gars il a déjà patienté un an dans une formation, si il revient encore sur sa décision, c'est que forcément il veut vraiment faire cela, alors laissons-le le faire et tout. Donc après ils m'ont laissé, j'ai commencé une formation en marketing communication avec tout ce qui est management et tout. Donc ça m'a permis vraiment de commencer par avoir de très bonnes bases par rapport à ça, et ça m'aide aujourd'hui au quotidien dans ce que je fais, et ça a vraiment cadré. Donc c'est pas vraiment facile, hein, mais c'est beaucoup de démarches, d'approches, et aussi il faut vraiment avoir la manière ou la méthode de pouvoir convaincre les parents finalement, quoi.
D'accord, je vois. Déjà, je crois on a discuté récemment, tu me parlais également de tes expériences avec le programme Tony et Lumi. Je voudrais savoir, au fond, qu'est-ce que cela t'a apporté dans le processus qui a mené vers l'accomplissement de tes rêves, pouvoir créer tes entreprises aujourd'hui et en vivante.
Alors, la découverte du programme de Tony Lumelu s'est fait un peu de façon anodine pour moi. Bon, après, je me suis inscrit, j'ai rejoint le programme, j'ai été sélectionné et tout. Et là, j'ai fait la découverte du programme, comment ça allait se dérouler. Alors, parce que ça m'a apporté énormément de choses. Déjà, il y avait le réseau, j'ai rencontré beaucoup de personnes, ça m'a permis de pouvoir côtoyer des personnes, de pouvoir me rendre compte en fait qu'il y avait aussi des gens qui partageaient les mêmes envies que moi, la même passion que moi et qui voulaient aussi changer les choses à leur échelle. Après, il y avait également le programme de formation de Tony Lumelu qui a été d'une très grande aide en termes de comment il fallait gérer une entreprise, comment il faut définir les coûts, comment il fallait gérer sa comptabilité même à petite échelle. Et enfin, il y a également le fonds d'amorçage que la fondation met à disposition pour soutenir les idées. Ça a été vraiment d'une grande aide parce que au début, forcément, il fallait avoir un peu de moyens pour couvrir quelques charges nécessaires, s'acheter quelques matériels pour pouvoir travailler dès le départ et tout. Et avec ce fonds d'amorçage, ça m'a permis vraiment de démarrer. Et globalement, ça a été une très très belle expérience, une expérience riche pour moi et qui finalement m'a donné encore plus envie de continuer parce que je me suis dit, si des gens comme ça arrivent à te sélectionner, tu rencontres des gens comme ça et imagine un peu ce que tu pourrais atteindre en travaillant plus en fait. Donc je me suis, ça m'a vraiment motivé et tout, et ça a été une très très belle expérience pour moi.
Super, là c'est sans doute parce que j'ai eu entendre d'autres personnes vraiment faire pratiquement le même témoignage que toi par rapport au programme, et je ne m'en doutais pas que cela t'ait apporté quelque chose d'intéressant dans ce processus. Enfin, dernière question pour finir cette première partie de l'interview. Quand tu observes un peu le chemin que tu as fait jusque là, qu'est-ce que tu retiens concrètement comme leçon que tu as peut-être envie de partager avec les amis à l'écoute de cette émission?
Ok, bon, quand je regarde un peu mon expérience jusqu'à aujourd'hui, ce que je pourrais partager comme conseil va se résumer principalement en trois points. Le premier point, c'est déjà vraiment d'avoir la foi et de pouvoir croire en ce qu'on a envie de faire. Parce que quand on ne croit pas soi-même en ce qu'on est en train de faire, je ne pense pas que les autres vont croire en cela. Parce que si les autres vont accepter de te suivre, c'est parce qu'ils sentent en toi que tu crois, que tu as la foi en ce que tu es en train de faire, surtout. Le deuxième point que je voudrais partager va se résumer par rapport à la passion. Il faut avoir une réelle passion pour ce qu'on est en train de faire, une amour pour ce qu'on est en train de faire, et cela permet vraiment de pouvoir franchir beaucoup d'obstacles, parce que c'est pas vraiment un parcours rose, c'est un parcours qui est semé de beaucoup d'embûches et tout, mais quand on a la passion, on a de l'amour pour ce qu'on est en train de faire, on peut facilement surmonter ces choses. Le dernier point que moi je trouve, bon, l'avant-dernier point, c'est déjà l'état d'esprit qu'on a et qu'il faut avoir en fait quand on se lance dans une telle aventure, de se dire en fait à chaque fois qu'on a les ressources et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs ou pour arriver là où on a envie d'être en fait. Parce qu'en général, moi je rencontre des gens, quand tu discutes avec eux, ils ont envie de faire un truc, mais tout ce qu'ils vont trouver, c'est les problèmes qu'il y a en se disant je manque de telle chose, je manque de telle chose, je manque de telle chose. Et il y a par exemple Aurel San qui disait, si tu as envie de faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. C'est-à-dire, si tu as vraiment envie de faire quelque chose, il faut juste aller avec les moyens du bord en fait. Et c'est une mentalité qu'il faut véritablement avoir en fait quand on se lance dans une telle aventure. Il faut toujours se dire, faire les choses avec les moyens du bord. Moi par exemple, aujourd'hui on fait des produits où on a vraiment besoin de développeurs. J'ai pas fait une formation en tant que développeur web à l'université, et c'est d'ailleurs pas une formation de ce genre que je fais aujourd'hui, mais en parallèle j'ai suivi des formations développement web et j'ai essayé de réaliser des projets à partir des connaissances que j'ai. Et c'est la même philosophie qu'on partage, et qui c'est de se dire qu'on peut tout faire avec les moyens et les ressources qu'on a à notre échelle. On peut faire de bons produits, de produits jolis, utilisables à partir des connaissances qu'on a. C'est quelque chose de fondamental. Et le dernier point que je voudrais partager, c'est d'être focus. En général, on a tous plein de projets, on a tous plein d'envies, on a envie de réaliser tel projet. Moi par exemple, j'ai un cahier où j'ai pas mal de projets que j'ai écrit dedans, un petit bouquin, hein, un petit carnet de notes que j'ai rempli de pas mal de projets, d'idées que j'ai envie de faire. Mais après, je me suis rendu compte que quand on n'est pas focus, on ne peut pas avoir d'impact, on peut mesurer en fait l'efficacité de ses actions. C'est quelque chose que les gens, c'est un problème qu'on a en général. Tu vas voir des personnes qui se lancent sur un projet aujourd'hui, demain ils sont encore sur un autre projet, après demain ils sont encore ailleurs. Et à la fin, quand ces gens ils s'assiedent, ils font le bilan, ils n'ont pas vraiment d'impact et ils n'ont pas vraiment pu faire évoluer n'importe quel produit, n'importe quel projet. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui arrivent à réussir en faisant plusieurs choses à la fois, mais ça, c'est l'exception en fait. Ce qui est très courant, c'est des gens qui sont focus. Et par exemple, moi, je me suis assis et j'ai fait une remarque simple. J'ai regardé le top 10 des personnes les plus riches et il y a quelque chose qu'ils ont en commun que les gens ne disent pas très souvent. Tout ce qu'on dit de ces gens, généralement, c'est de dire que ces gens sont les plus riches, ils sont à la tête de telle entreprise, en oubliant de préciser que ces gens-là ont fumé ou ont passé une bonne partie de leur vie sur quelque chose pendant un bon moment. Quand tu vas prendre peut-être Mark Zuckerberg, il va travailler, il a passé une bonne partie de sa vie et jusqu'à présent sur Facebook, c'est sur ça qu'il s'est concentré pendant un bon moment et c'est le cas pour beaucoup d'autres. Et quand on vient en Afrique, quand tu vas prendre Aliko Dangote par exemple en Afrique, c'est aussi des gens qui ont passé beaucoup d'années de leur vie sur quelque chose et ils ont été focus là-dessus. Et à la fin, ce que ça permet d'atteindre, c'est quoi? Lorsque vous avez votre focus sur quelque chose, vous allez atteindre des résultats, vous allez franchir des paliers qui psychologiquement vont débloquer certaines barrières dans votre tête. Et demain, quand vous relancez dans quelque chose, vous allez aller plus vite que ce que vous avez fait précédemment. Et c'est quelque chose que même moi-même, je remarque au quotidien, c'est qu'on a créé des produits, on s'est démédé pas mal pour les amener à 1000 utilisateurs. Mais les produits qui ont suivi, on a atteint les 1000 utilisateurs plus vite qu'on a fait pour les produits précédents. Et ça se passe chaque fois qu'on reprend un nouveau produit. C'est-à-dire que quand on passe beaucoup de temps à faire quelque chose, on acquiert plus d'expérience, on devient plus efficace, plus performant et on progresse beaucoup plus rapidement. À la fin, vous avez des résultats exceptionnels, vous avez un réseau que vous avez développé. Demain, si vous relancez n'importe quel produit, n'importe quel projet, toute cette expérience que vous avez auparavant, vous la mettez à contribution pour ce nouveau projet. Et ce nouveau projet ne va plus commencer. C'est vraiment, vraiment d'être vraiment focus sur quelque chose, d'être focus sur un projet. Après que ce projet ait atteint un certain niveau, on peut se lancer dans d'autres aventures, dans d'autres choses et encore atteindre d'autres objectifs en fait. Voilà un peu ce que je pourrais partager de mon expérience, de mon parcours juste là.
Alors merci à toi pour ces conseils. Je pense que j'en ai tiré pour moi et tous ceux qui nous écoutent vont en tirer également. Et là, on va passer à la deuxième partie de l'interview. Appréciez-vous ce que vous entendez jusque-là? Papa Faire, assurez-vous de ne jamais manquer un de nos épisodes en rejoignant notre groupe Telegram sur t.me/oncompetenceforfuture ou en prenant par le lien dans la description. Ce podcast est rendu possible par des auditeurs comme vous. Merci pour votre soutien. Pour la deuxième partie, je voudrais qu'on parle bien de ton rôle de time manager, de ton expérience en tant qu'entrepreneur, de ton organisation et des compétences que tu as développées avec le temps. Donc, je sais que quand on est manager, leader d'équipe, on a besoin de toucher à tout et d'avoir un œil critique sur tout pour pouvoir faire évoluer les choses. La question que je m'en vais te poser, c'est de savoir cette compétence-là qui te définit le mieux aujourd'hui, designer ou développeur.
Alors aujourd'hui, la compétence qui me définit le mieux au quotidien, c'est développeur. Ce que je fais principalement depuis janvier 2021, c'est je travaille en tant que développeur au sein de l'équipe. Donc je travaille principalement avec les équipes de développeurs qu'on a. C'est ce que je fais au quotidien actuellement. C'est ce qui me définit le plus en termes de compétences.
Et pourquoi avoir choisi de partir à ton propre compte au lieu de devenir freelance et travailler avec une boîte, quelque chose du genre quoi? Plus simplement, pourquoi avoir choisi solutionner des problèmes? C'est quoi ta philosophie derrière?
Alors, pourquoi j'ai choisi cette aventure? Premièrement, parce que je suis quelqu'un, j'aime vraiment être libre, pouvoir être libre de faire certains choix, faire certaines expériences soi-même. Donc c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, cette liberté. Ensuite, j'ai pas vraiment aussi eu la chance de travailler en entreprise ou en tant que freelance généralement. Mais des expériences, des retours d'expérience que j'ai très souvent des personnes qui ont travaillé en entreprise ou en tant que freelance, c'est que dans ces milieux, on travaille pas comme on veut, on travaille suivant les exigences et les objectifs de l'entreprise. Et pour quelqu'un qui a vraiment envie d'être libre, de pouvoir faire ses propres expériences, de pouvoir faire ses choix, ça ne cadre pas forcément avec. Et le dernier point aussi, c'est que je suis un peu quelqu'un qui évolue au feeling. Je ne sais pas si c'est un défaut, une qualité, mais en général, je travaille beaucoup plus au feeling. je peux me réveiller ce matin, travailler sur quelque chose de spécifique par rapport à un projet. Le soir, je me retrouve à faire autre chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai fait le matin. Je peux me réveiller un jour et j'ai envie de lire toute la journée, peut-être je me mets à lire. Je peux me réveiller un autre jour, voilà, j'ai envie de suivre un peu les statistiques, de m'asseoir, de suivre un peu les parcours d'utilisateurs, de voir un peu comment ça se passe en général. Et en général, quand tu es en entreprise ou tu travailles en freelance, tu peux pas faire ce genre de choses comme tu veux. Tu es obligé de suivre en fait ça. Et donc, c'est ce qui m'a poussé beaucoup plus à être à mon compte aujourd'hui.
D'accord, je vois et je peux comprendre aussi déjà cette philosophie. Je sais pas, il y a des gens qui sont comme ça. Par contre, il y a d'autres qui aiment bien essayer de au patron, se rassurer que le salaire est tout ça. C'est parfois une question de personnalité aussi. Je pense quand même que tout le monde n'a pas forcément les mêmes visions. Déjà, ton premier produit tech, c'était quel?
Alors, mon premier produit tech, c'était une plateforme de un site de petite annonce qui s'appelait Deal de Babi. Un site de petite annonce pour la ville d'Abidjan uniquement. J'avais fait l'aventure avec 4 personnes. Donc, c'était ça vraiment mon premier produit tech, véritablement. Bon, après, c'est pas une aventure qui a vraiment duré. Comme dans la plupart des parcours, il y a des échecs, il y a des trucs qui marchent et tout. Et donc, voilà.
Alors, comment est-ce que tu es arrivé à te faire une équipe? Comment est-ce que tu as pu regrouper les gens, tu as pu les connaître, en fait, et quoi avoir également intérêt? Parce que j'ai l'impression que c'est la partie la plus importante en fait, du travail. À un moment, tu ne pourras pas accomplir tout le travail seul. Il faudra forcément convaincre d'autres personnes qui viennent à toi de venir faire l'expérience et tout. Comment est-ce que tu fais quand tu sais que là, tu n'as pas encore quelque chose de concret? Comment est-ce que tu fais pour attirer les bonnes personnes de toi? Vraiment, je souhaite bien comprendre un peu ton processus de comment est-ce que tu arrives à réunir toi.
Bon, sur ce volet, moi, je dirais, bon, premièrement, c'est surtout le fait que dès le départ, je partage la vision que j'ai par rapport à ce que j'ai envie de faire avec les gens de façon très ouverte. Par exemple, si j'ai envie de faire un projet, je commence moi-même déjà avec les moyens que j'ai. Ensuite, quand il y a des gens qui s'intéressent, qui me disent « j'ai envie de le faire avec toi » ou carrément des gens que j'aborde, je leur explique clairement, tu vois, je suis en train de faire ce truc. Je voudrais que dans 2 ans, ça soit ça, dans 5 ou 10 ans qu'on soit à ce niveau. Et je pense que si on le fait ensemble dans 2 ou 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, voilà le niveau auquel on pourrait être. Parce que il faut comprendre aussi que chaque personne a une vision ou a des envies ou des projets qu'il a envie de réaliser individuellement pour sa vie. Il y a des gens qui ont envie d'être millionnaire dans 5 ans ou dans 10 ans. Et moi, ce que je fais surtout, c'est d'arriver à comprendre en fait cette vision des gens, de leur partager ma vision des choses et de leur montrer la place qu'ils pourraient occuper en fait dans ce parcours, dans cette aventure-là, si on arrivait vraiment à atteindre cet objectif-là. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de faire quelque chose qui donne du sens à son existence et qu'il fait. Donc généralement, ça part de là. Alors, il y a eu des aventures où c'est des gens qui m'ont abordé en premier, qui m'ont dit « je kiffe ce que tu es en train de faire et j'ai bien envie de travailler avec toi ». Et quand les gens me disent ça, je dis « ok, il n'y a pas de problème, on peut le faire ensemble si tu veux ». Mais bon, voilà un peu comment je compte, voilà ce que j'ai envie de faire, voilà où je veux en arriver. Et là, j'attends de voir un peu le retour des gens. C'est principalement comme ça que moi, j'arrive à former des équipes dès le départ.
D'accord, je vois et ça m'inspire déjà. Parce que moi, j'ai souvent en fait ce souci-là de vraiment peut-être trouver les bonnes personnes, trouver ceux qu'il me faut vraiment. Et surtout, après ça, du côté de la collaboration, j'ai pas mal de petits soucis vraiment au niveau de l'équipe. Et donc, ça, je suis curieux de savoir comment est-ce que toi, tu t'organises pour vraiment évoluer sur ce côté-là. Alors, autre chose que je trouve difficile, mais que tu as dû surmonter, toi, c'est comment vraiment garder l'équipe motivée au moment où les résultats été en cours de
passer d'un niveau A à un niveau A++. Et donc, forcément, quand je pense comme ça, c'est quoi? C'est de me dire, il faut que ces gens soient beaucoup plus compétents qu'ils ne l'étaient dès le départ. C'est que ces personnes-là évoluent dans leur vie, que ce soit sur le plan social, que quand ils avaient rejoint initialement le projet au départ. Alors, quand je me concentre sur les gens et je travaille à ce que ces personnes évoluent, forcément, quand vous avez les meilleures personnes dans votre équipe, vos résultats seront meilleurs. Quand vous avez peut-être dans votre équipe des meilleures personnes au niveau du service client, ça va se sentir au niveau des résultats. Donc, moi, je vois l'entreprise plus un management humain que au management des chiffres en disant voilà, on a envie d'atteindre tant, on a envie d'atteindre 10 000 utilisateurs. Ok, mais il faut des hommes qui vont travailler, mettre en place tout un tas de choses qui vont être motivés pour pouvoir atteindre cet objectif là. Et généralement, ce qui fait que les gens, par moi, mon expérience, sont motivés dans ce qu'ils font, c'est l'évolution que les gens constatent eux-mêmes dans leur vie. Quand forcément quelqu'un, lorsque la personne vous a rencontré, il avait un certain niveau de compétence et que au bout d'un certain temps, après un an, après 6 mois, la personne se rend compte que depuis qu'il vous a rencontré, il a gagné en expérience, il a gagné en compétence. Il se dit forcément qu'il est sur le bon chemin parce qu'il se dit j'évolue ici et tout le monde a envie d'évoluer. Donc moi, mon travail en termes de management, c'est vraiment sur ça que je suis concentré. Et ce que ça donne comme résultat aussi, c'est que quand vous faites ça, les personnes deviennent compétentes davantage, ils sont plus engagés dans ce que vous êtes en train de faire. Et il y a beaucoup d'idées qui vont commencer par venir d'eux en fait. Il y a plein d'idées aujourd'hui qui ne savent pas vraiment quel chiffre d'affaires vous avez réalisé au cours d'un mois par exemple, combien vous avez généré comme revenu, etc. Moi, ma stratégie de management, c'est d'être très très ouvert par rapport à tous ces détails là pour que les gens sachent quand les choses ne marchent pas et quand ça marche. Et quand ça marche, il faudrait aussi que tout le monde sente que ça marche véritablement. Si vous commencez au départ et que vous ne réalisez pas de bénéfices, tout le monde sait qu'on réalise pas de bénéfices. À la fin du mois, personne ne va s'attendre à un salaire. Les gens n'ont pas d'attente directe, ils sont pas frustrés et les gens se disent ok, travaillons. Au moment où vous commencez par générer des revenus et qu'à la fin du mois tout le monde perçoit quelque chose, alors tout le monde se dit ok, ce mois par exemple, puisqu'on a travaillé, on a eu ce résultat, alors sur le mois prochain on travaille plus, on aura encore plus de résultats. Donc moi, j'ai ce management qui est très ouvert, que j'adopte avec les personnes avec qui je travaille, qui fait que les gens sont motivés et les gens continuent de travailler et surtout investir beaucoup beaucoup dans le capital humain, par exemple, c'est-à-dire permettre aux gens acheter des formations s'il faut d'autres personnes, permettre à des gens d'évoluer dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est très important. Mais surtout être ouvert en termes de management, ça c'est très très puissant parce que les gens savent à quoi s'attendre, les gens savent que quand ça va pour tout le monde, quand ça ne va pas, ça ne va pas pour tout le monde. Mais quand on essaie de jouer, peut-être de se dire bon, ok, je suis malin, je dis rien aux autres et quand ça marche, peut-être on va se la couler douce et les autres sont là-bas, les gens qui ont aussi des envies et qui peuvent même mieux réussir ailleurs que d'être avec vous. Donc le fait que les gens soient avec vous, c'est déjà une grande chose. Donc il ne faut pas considérer que ces gens-là, ils n'ont rien à faire de leur temps ou de leur vie, c'est pour ça qu'ils sont là. C'est de comprendre que ces gens-là fédèrent, adhèrent à la vision, et c'est pour ça qu'ils sont là. Donc il faut que la gestion soit très ouverte, tout le monde comprend comment ça se passe. Et quand c'est comme ça, les choses, ça évolue, ça garde, ça maintient les gens de façon motivée en termes de management. C'est ce que moi j'ai trouvé le...
Maintenant, une question qui me vient à l'esprit, c'est aussi pourquoi avoir choisi de partir sur le process d'une startup plutôt qu'une entreprise dans les règles de l'art. Et entre la démarche startup et la démarche entrepreneuriale, qu'est-ce qu'il y a de vraiment différent que tu as remarqué en fait dans cette aventure?
Alors, bon, pourquoi j'ai choisi de partir sur une approche startup? Parce que quand on est startup, on est orienté croissance. Et forcément, quand on est au début, on n'a pas vraiment de business model. On ne sait pas vraiment ce qui va marcher et même si on a une idée dans le départ, il faut vraiment la tester. Généralement, quand on est en format entreprise, c'est qu'on a déjà un business model vraiment défini et on est déjà dans un cadre strictement formel. Quand on est en startup, on est beaucoup plus en freestyle où voilà, il y a certaines libertés et il y a certains risques qu'on peut se permettre de prendre. Mais quand vous êtes une entreprise formellement, vous êtes orienté chiffres, comment progresser et comment surtout être stable dans le temps. Mais quand vous êtes startup, vous vous dites on va tester tout ce qu'on peut tester pour pouvoir atteindre un objectif et voir ce que ça va donner. Donc on n'hésite pas quand même à tester des stratégies, à changer, à se réadapter, se réinventer à tout moment. Mais quand on passe en format entreprise, on n'arrive pas à faire ces choix là de façon très 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 poussée. Donc c'est pour ça que j'ai préféré aller dans dans ce sens startup. Arriver à trouver des business models pour des produits qui vont eux passer peut-être en format entreprise, mais l'entité mère va toujours demeurer une startup puisque on n'a pas un business model clairement défini. On teste et on ne fait que tester.
D'accord, je vois. Parlons déjà de démarche. Vous avez pas mal de produits sur le marché actuellement et challenger que vous êtes, je pense que vous avez pas mal de projets sur lesquels vous voudrez bien vous mettre. Alors maintenant, ma question est à quel moment de l'évolution du produit vous vous dites qu'il a atteint le niveau où il peut continuer à conquérir de nouveaux clients pour que vous vous permettiez en fait de passer à autre chose quoi? Et comment est-ce que vous vous organisez pour suivre pendant ce temps, enfin comment est-ce que vous vous organisez pour suivre pendant que vous travaillez en fait sur d'autres projets?
Alors bon, nous on part déjà sur un modèle suivant lequel on est comme une usine qui va fabriquer un ensemble de produits. Alors quand vous allez dans une usine qui fabrique des produits, comment ça se fait? Généralement c'est que l'entité ou l'usine a un ensemble de ressources qui vont être mis à disposition des différents produits. Donc c'est un peu ce modèle qu'on suit. On a des départements en interne et quand on travaille sur un produit, chaque département a des apports, a quelque chose qu'ils vont apporter. Donc on a un framework qu'on suit par rapport à ça. Donc à chaque étape du développement du produit, il y a différents départements qui vont atteindre, qui vont intervenir. Et ensuite, quand le produit va atteindre certains objectifs ou certains métriques clés que nous on a en interne par rapport à chaque produit et tout qu'on définit dès le départ, on se dit ok, ce produit il est arrivé à une phase de maturité où on doit peut-être le rendre indépendant. C'est-à-dire c'est comme vous avez un bébé ou un enfant et à un certain âge vous allez vous dire ok, on va suivre l'enfant. Voilà, donc quand le produit atteint cette phase, on se dit ok, il faut maintenant que ce produit là ait une équipe qui lui est entièrement dédiée, ou on va changer d'approche par rapport à la gestion de ce produit là. Donc ça va dépendre vraiment des objectifs et des évolutions que le produit va connaître, puisqu'on est dans un environnement où on ne peut pas tout définir à l'avance. Vous pouvez avoir une roadmap et vous dire on va lancer telle fonctionnalité, on va faire ci, on va faire ça. Mais sur le marché, il y a d'autres réalités qui vont venir, il y a d'autres acteurs qui vont venir et ça va influencer votre calendrier. Vous êtes obligé de vous réadapter par rapport à ça et tout. Donc c'est vraiment comme ça on évolue en termes de management de produits et de fonctionnement en interne.
D'accord, je vois. Deuxième question que j'ai, c'est quel est le processus par lequel vous arrivez à vous connaître du fait que telle ou telle idée est la bonne?
Alors, dès le départ, on ne peut pas vraiment savoir si une idée est la bonne. L'idée est la bonne à partir du moment où il y a des gens qui acceptent payer pour ce qui est offert comme service ou solution pour un problème. Mais comment est-ce qu'on fait déjà pour avoir ces idées-là? C'est de partir en fait des besoins que nous-mêmes on a, par exemple. De partir des besoins que les clients qu'on a actuellement ou les utilisateurs qu'on a actuellement soulèvent ou relèvent très souvent. Et aussi partir de nos études personnelles, que ce soit en termes d'études de marché ou d'analyse personnelle qu'on va faire par rapport à l'environnement dans lequel on évolue pour comprendre les besoins des gens. Et c'est de là qu'on va tirer des idées, on va détecter des problèmes et ensuite on va proposer un ensemble de solutions et ensuite on teste cette solution et on commence par récolter des métriques qui vont permettre de valider en fait si cette idée là elle vaut la peine d'être développée ou elle est une bonne idée ou ça donne un bon produit qu'il faut continuer par développer. Mais dès le départ, on peut pas vraiment savoir si une idée est la bonne ou si elle est mauvaise, parce que tant qu'on n'a pas testé, on ne peut pas tirer de conclusion.
D'accord, je vois. Et une fois que vous êtes sûr de travailler sur le projet, ça prend à peu près combien de temps d'étapes et de préparation pour que vous le lanciez?
Alors, le temps que va prendre le développement d'un produit va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais en interne, on a un framework qu'on suit qui permet de lancer des produits suivant des durées bien déterminées et tout. Après ça, c'est un peu des détails internes, c'est des frameworks sur lesquels on travaille toujours qui font que il y a des détails par rapport à ça que je pourrais pas vraiment donner, mais on a des frameworks en interne qui définissent en fait la durée de développement d'un produit avec les différentes phases qu'il faut. Mais après, c'est pas vraiment ça ne s'adapte pas dans tous les cas. Ce qui fait qu'on réinvente ou qu'on réadapte à part les frameworks où on travaille à améliorer le framework par rapport aux réalités qu'on a. Mais en général, on passe sur des produits qui vont prendre 6 mois en termes de développement et des produits qui vont prendre 3 mois en termes de développement. Ça va dépendre principalement des ressources dont on dispose déjà, des ressources qu'il faut mobiliser et ensuite du temps qu'il faut consacrer au déploiement de la solution. Donc, c'est ces trois paramètres-là qui définissent la durée de lancement d'un produit.
D'accord, ça me va. Alors, comment est-ce que vous procédez généralement pour la promotion, le positionnement du produit sur le marché?
Alors, la promotion, le positionnement de produits, ça va se faire avec beaucoup, avec plusieurs paramètres en fait, dont on va tenir compte d'abord pour définir la stratégie. Il y a des produits sur lesquels on va partir sur notre base actuelle de clients qu'on a, d'utilisateurs, en se disant ok, il y a des gens qui sont déjà là, on leur propose ça d'abord. Ensuite, il y a notre département marketing qui va faire des propositions de stratégie, de campagne, de canaux par lesquels on va passer et qu'on va tester à chaque fois pour un ensemble de produits. Mais aujourd'hui, par rapport à tous les lancements qu'on a déjà faits, il y a un ensemble d'expériences qu'on a acquis, un ensemble de savoir-faire, de manières de faire propre au marché africain qu'on a acquis et qu'on va appliquer maintenant au nouveau produit. Donc ça va être, ça peut être par exemple de la publicité Facebook, ça peut être peut-être la publicité avec peut-être des partenaires. Il y a aussi les lancements ou des déploiements de produits, de solutions avec des acteurs déjà existants qui ont déjà peut-être une base de clients. Peut-être c'est un acteur qui est numéro un dans un domaine spécifique. On a un produit qui se rapproche de son segment de marché. On s'associe avec lui pour déployer ou partir aussi de la base de clients ou d'utilisateurs qu'il a. Donc ça, c'est pas quelque chose de standard. C'est quelque chose qui va varier et qui va dépendre du type de produit qu'on a en face et du type de positionnement qu'on veut faire adopter au produit ou la niche de clients qu'on veut toucher principalement. Mais ça va aller sur tout ce qui est classique, qu'on connaît déjà, la publicité, tout ce qui va être campagne, etc.
D'accord, je comprends. Alors, l'autre chose qui bloque un peu parfois quand on démarre des projets du genre, c'est même si le produit est tout meilleur, on peut parler d'un produit développé et soutenu purement par les systèmes digitaux. Et on connaît bien, même si le produit est un peu meilleur et qu'on s'y connaît pas mal dans certaines compétences nécessaires au produit final, ce n'est pas toujours facile. Donc, j'ai envie de savoir quels sont plus ou moins les financements que tu as touchés pour continuer à vraiment développer le produit, tout ça. Et comment est-ce que tu gères aussi ce côté-là? Parce que bon, c'est en fait l'aspect qui bloque beaucoup de personnes qui ont envie, bien envie de lancer des produits, lancer des choses, des activités, mais qui n'ont pas forcément en fait le financement nécessaire pour pouvoir.
Alors aujourd'hui, c'est une question qui revient très souvent. Les gens me posent très souvent cette question. Alors, comme je l'ai déjà dit au départ, à Xazara, on est dans une optique où on développe des produits, des solutions face aux problèmes, aux besoins que les gens ont dans leur vie de façon au quotidien. Et deuxième chose, il faut prendre en compte l'environnement. On est en Afrique, on n'est pas aux États-Unis où on est sur des marchés, on est dans un écosystème où il y a de la liquidité, il y a des fonds d'investissement, des gens qui veulent investir. Et quand on prend cette réalité dans notre contexte africain et où on est dans un écosystème, dans un environnement où il n'y a pas ces gens d'avantage, forcément ça pousse à repenser le modèle de produit ou la façon dont on doit faire les choses. Alors, ce que moi j'ai à titre personnel, la vision que moi j'ai toujours transmis dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas dans un environnement où on a de la liquidité, alors faisons les choses avec les moyens du bord et surtout pensons des solutions qui ont un impact assez rapide et qui permet de générer de l'argent pour s'auto-financer, pour financer notre croissance. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, prix. Il y a des besoins, il y a des marchés sur lesquels il y a des véritables, il y a des problèmes qu'il faut résoudre, il y a des lacunes, il y a des problèmes auxquels il faut apporter des solutions. Mais après, quand on prend en compte les réalités de l'environnement, de l'écosystème, on peut pas, c'est pas tout besoin qu'on peut satisfaire aujourd'hui par rapport aux moyens. Lorsque vous lancez aujourd'hui peut-être dans la fintech généralement c'est un segment où il faut beaucoup de capitaux dès le départ. En fait, il faut beaucoup de capitaux parce que vous allez fonctionner sur des commissions, des trucs de ce genre, et il faut beaucoup de volume pour générer beaucoup de revenus, ce qui n'est pas évident dès le lancement comme ça. Donc forcément, quand tu prends ces paramètres, tu te dis ok, c'est vrai que j'ai envie d'apporter une solution au niveau fintech, mais j'ai pas les capitaux. Qu'est-ce que je peux faire rapidement? Quel problème je peux résoudre à petite échelle qui peut me permettre de générer de l'argent pour financer ma croissance? Donc en termes de financement, comme je l'ai dit, il y avait le financement de la fondation Tony Lumelu, mais après ça, principalement, on est allé beaucoup plus en autofinancement et surtout avec les moyens qu'on avait à nos dispositions à titre personnel. Donc que ce soit des petites ressources qu'on avait et tout, c'est avec ça qu'on a toujours financé notre croissance et on est toujours allé step by step en fait. Et donc moi, c'est vraiment cette philosophie qu'on suit, prendre en compte les réalités de notre environnement, prendre en compte les contextes, le milieu dans lequel on évolue, et ensuite s'adapter par rapport à ça, réajuster son ambition ou sa vision par rapport à la réalité du contexte où on grandit.
C'est intéressant tout ça, et je me dis que plus ou moins en fait, on devrait venir vraiment à cette approche, surtout parce que s'il faut attendre en fait des investisseurs, des fonds alloués à des choses du genre en fait, on va vraiment regretter. Donc c'est un acquis, je crois bien que même pour toi ça a été une expérience, trouver des financements nécessaires pour vivre, c'est tout ça, et logiquement ça devrait être pour tous ceux qui veulent vraiment évoluer dans ce domaine-là, créer quelque chose, pouvoir les vendre une solution, et surtout pour l'Afrique quoi. Alors avant de finir, j'ai lu où tu parlais de certaines de tes hypothèses qui probablement se sont révélées fausses avec le temps. Que tu peux nous dire deux de ces hypothèses, des impressions que tu avais eues au départ par rapport au marché africain et qui aujourd'hui plus ou moins se révèlent.
Alors, dès le départ, en fait, on était allé sur certaines hypothèses en se disant, par exemple, que en Afrique, les gens ne payent pas par carte de crédit et que proposer un paiement par carte de crédit serait inutile, par exemple. Après, on s'est rendu compte que c'était faux parce qu'aujourd'hui, nous, à notre échelle, les paiements par carte, c'est pas négligeable par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Retirer les paiements par carte, ça va constituer en fait une perte pour nous. Donc on s'est rendu compte que c'était des hypothèses sur lesquelles on était, c'était des points de départ, des avis qu'on avait qui étaient erronés par rapport à la réalité. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui sont en Afrique ici, mais qui nous payent par PayPal. Il y a des gens qui nous payent en crypto-monnaie. Et on s'est rendu compte que tant qu'on n'a pas testé quelque chose, surtout en Afrique, il ne faut pas prendre des décisions ou ne pas affirmer quelque chose et se fixer là-dessus surtout. Autre hypothèse sur laquelle on était beaucoup plus concentré, c'était de se dire qu'en fait, il faut absolument beaucoup, beaucoup de financement pour entreprendre. Alors, mais quand j'y repense aujourd'hui, ce qui nous a fait quelque part nous amener à prendre ces conclusions, c'est beaucoup ce qui était dit dans les médias généralement. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas prendre les médias, tout ce que les gens disent généralement, c'est que en Afrique, les gens ne sont pas encore prêts pour l'e-commerce. L'e-commerce n'est pas encore développé. Il n'y a pas les adresses, il n'y a pas les moyens de paiement et tout. Et donc, finalement, quand les médias disent tout ça, à la fin, on se dit ok, c'est vrai, en Afrique, on ne peut pas faire de l'e-commerce, on ne peut pas vendre en ligne, les gens ne vont pas payer en ligne, etc. Et moi, si j'ai une chose à dire, c'est un conseil à partager, c'est de dire aux gens, il faut prendre toujours la peine de tester et de tirer ses propres conclusions, peu importe le marché sur lequel on est. Parce qu'en général, ces médias, c'est des gens qui vont être derrière, qui vont peut-être vouloir transmettre un point de vue pour amener les gens peut-être à ne pas se pencher sur certaines réalités. Alors que si on teste soi-même, on tire ses propres conclusions, on a ses propres expériences qui permettent de prendre de meilleures décisions demain. Et il n'y a rien de mieux que de faire ses propres propres expériences, parce que l'expérience des autres peut être faite dans des contextes qui n'ont rien à voir avec vous, votre contexte, et qui vont les amener, eux, à tirer des conclusions qui ne vont pas être forcément les mêmes conclusions que la tienne. Donc, c'est des hypothèses sur lesquelles on s'était fixé. Il y a beaucoup d'hypothèses de ce genre, beaucoup de choses qu'on se disait au départ. Ouais, telle chose, ça va pas marcher. Par exemple, on se disait que les gens n'allaient pas en Afrique, les gens ne consultaient pas les boîtes mail. Après, on s'est rendu compte que c'était une très grave erreur qu'on avait fait, par exemple, de se dire ça. Parce qu'on n'envoyait pas de mail aux gens souvent. On se disait, bon, les gens ne vont pas consulter les mails. Mais le fait, c'est quoi? C'est qu'on n'était pas le seul à se dire ça. Et on s'est rendu compte d'un truc, c'est que puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui se disent que les gens ne lisent pas les mails en Afrique, ça fait qu'en général, en Afrique, les gens ne reçoivent pas beaucoup de mails comme en Europe où les gens, par exemple, ils vont au supermarché, on leur demande leur adresse mail. Après, ils ont des pubs. Voilà. Alors qu'en Afrique, généralement, les gens se disent, les gens ne consultent pas leur boîte mail et personne n'envoie de mail. Et finalement, quand vous envoyez des mails, vous avez des taux d'ouverture très élevés parce qu'il n'y a pas beaucoup de mails, c'est juste vos mails qui viennent et puis voilà, les gens voient. Donc, je me dis toujours en fait qu'il faut vraiment tester avant de tirer des conclusions, tirer vraiment des leçons, prendre des décisions, surtout en Afrique. Parce que l'Afrique a une particularité, c'est qu'on est sur un marché où on n'a pas trop de données comme en Europe où il y a tellement d'études, il y a des centres de recherche qui ont fait des études et qui continuent de faire ces études là par rapport à chez nous ici. Donc ici, il faut vraiment tout tester soi-même, faire ses propres expériences par rapport à son segment de marché, par rapport à ses ressources et avec les moyens qu'on a pour pouvoir prendre les meilleures décisions.
D'accord, c'est intéressant. Je pense que, bon, par exemple, quand je prends le cas des mails, je me le disais ça aussi, que le mail n'est pas habitué en fait. C'était une question d'habitude. Mais après, forcément, c'est quand on teste, plus ou moins, on a des résultats qui dépassent nos attentes, surtout dans ces domaines-là. Moi, je crois que récemment, j'ai lancé un truc du genre où je voudrais juste que des gens se voient au Telegram. Je me disais au fond que bon, je n'aurais pas assez de personnes, que les gens ne seront pas intéressés. Mais cela suffit juste que j'avais fait la publication sur le groupe. Là, suffit que 2-3 personnes me posent un like et des commentaires. Et puis après, à la fin de ma journée, j'ai eu juste à 50 avis pour le groupe. Alors qu'au fond, au départ, en fait, c'était clair pour moi. Bon, je ne fais juste pas par précaution. C'est quelques personnes qui interagissent avec le contenu. Je les enregistre quelque part pour pouvoir partager des contenus plus intéressants. Mais c'est parti, quoi. Donc, au fond, oui. C'est un marché qui est encore vierge, un marché qu'on peut exploiter. Mais le vrai souci, là, c'est qu'on n'a pas les données. Pour faire les choses soi-même pour contrôler ses propres.
Donc, oui, en tout cas, c'est vraiment une réalité, en fait. Et ça se passe dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de cas où on se dit souvent, ce genre de truc, ça ne va pas marcher en Afrique. Et après, l'une des choses que moi, j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont en Afrique ici qui font des abonnements sur Netflix, qui renouvellent les abonnements chaque mois.
Si.
Voilà, donc, ces gens-là sont habitués à une qualité de service qui sont très, très loin, en fait, de ce que nous, on propose, en fait. Donc, finalement, il ne faut pas se dire, en fait, que les gens ou bien pas faire les choses à peu près en se disant bon, on est en Afrique, les gens, alors c'est des gens qui vont très loin. Il y a des gens qui sont abonnés à des services ici dont tu t'imagines pas. Il y a des gens, par exemple, dernièrement, il y a Spotify qui s'est lancé en Afrique. Moi, par exemple, personnellement, moi, je connais pas mal de personnes autour de moi qui ont des abonnements Spotify. Moi-même, par exemple, j'ai un abonnement Spotify. Et après, quand tu dis avant, on se dit, par exemple, les Africains, pas vraiment le genre de personnes qui vont payer des trucs en abonnement, mais là par exemple, moi je connais pas mal de personnes qui ont un abonnement Spotify, qui ont un abonnement Netflix et qui le renouvellent chaque mois automatiquement, qui ont une carte de crédit qui recharge. Et donc je me dis, il faut vraiment oser tester vraiment.
C'est vraiment intéressant. Alors on va passer rapidement à la question, sinon on risque de passer 2 heures sur l'interview. La dernière question plutôt pour cette deuxième partie de l'interview. J'ai envie de savoir quelles sont tes meilleures ressources gratuites pour apprendre en fait à devenir apprendre l'entrepreneuriat. Quelles sont les ressources d'apprentissage en ligne gratuites que tu as utilisées dans n'importe quelle situation d'ailleurs dans ton parcours, que tu peux conseiller à nos auditeurs? Je veux bien s'en expliquer.
Alors, bon, les ressources, je vais aller un peu rapidement. La première chose que moi je recommandais à quelqu'un aujourd'hui qui entreprend ou pour une culture générale, vraiment, c'est Quora. Alors, Quora, c'est un réseau social un peu qui fonctionne sur un modèle de questions-réponses. Donc, il y a des gens qui posent des questions, il y a des réponses qui sont apportées. Ce que j'ai aimé sur Quora, c'est que là-bas, tu as des experts, des gens qui sont très expérimentés et qui viennent répondre à des questions, qui partagent leurs expériences et c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Le deuxième point que j'ai. Deuxième ressource que je peux partager. Bon, ça, c'est pas une ressource, mais le truc que je dois partager, c'est Google, en fait. Alors, moi, j'avais rejoint un accélérateur. J'ai oublié de parler de ce truc, mais à un moment, on avait rejoint un accélérateur américain qui s'appelle New Ship Accelerator, où on a été accompagné. Alors, on a suivi, j'étais admis à une formation chez l'accélérateur. C'est une formation qui vaut plusieurs milliers de dollars. Et le premier cours de la formation, c'était comment utiliser Google. En tant qu'entrepreneur, comment il fallait
Google,
utiliser
hein.
Google. Ouais. Quand tu le dis, ça paraît, ça fait un peu rire en fait. Mais en fond, moi je me suis rendu compte que je ne savais pas utiliser Google parce qu'il y avait énormément de fonctionnalités, de trucs qui pouvaient permettre même de spécifier, d'avoir des résultats très très précis par rapport à des sujets et tout. Donc, ce que moi je peux recommander comme ressource, même avant toute chose, c'est Google. Lorsque vous avez un problème, vous rencontrez une difficulté, peu importe ce que vous êtes en train de faire, allez taper simplement votre demande dans Google. Il y a de fortes chances que quelque part sur la Terre, quelqu'un a déjà rencontré ce problème. Et c'est surtout l'avantage qu'on a aujourd'hui à notre ère, c'est qu'on est dans un monde d'information, de globalité, où on se rend compte qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes problèmes que nous et on peut facilement apprendre des expériences des autres. Après ça, autre ressource que je peux partager, ce sont les podcasts. Alors, si vous avez un abonnement premium, peut-être sur Apple Music ou sur Spotify, bon, il y a aussi des plateformes gratuites où il y a pas mal de podcasts. Par exemple, ce podcast aussi, il y a pas mal de podcasts en fait dans lesquels les gens partagent vraiment les expériences. Et moi personnellement, avant j'aimais beaucoup lire, mais à un moment, aujourd'hui j'ai plus vraiment le temps de lire comme avant, mais je me suis tourné beaucoup plus vers les podcasts parce que c'est très riche. Vous avez des gens qui parlent de leurs expériences et forcément dans ce que les gens racontent, il y a quelque chose que il y a une façon dont les gens racontent les choses. Il y a certaines intimités que les gens disent plus facilement que quand ils sont en train d'écrire, parce que quand ils écrivent, ils vont relire, ils vont retirer des trucs, ils vont réajuster. Mais quand les gens parlent, ils sont ouverts et voilà, ils partagent beaucoup beaucoup d'expériences, leur retour. Donc c'est des ressources que moi je peux partager pour toute personne qui a vraiment envie d'apprendre. Et autre chose, si on a les moyens, c'est aussi vraiment de lire, d'acheter des livres qui vont également dans le sens de tout ce qui est management, marketing, etc. Et en termes de culture générale aussi. Donc voilà un peu des ressources que moi je pourrais partager et qui aujourd'hui me servent au quotidien. Parce que j'ai un peu cette habitude de faire 1 à 2 heures par jour sur Quora quand j'ai le temps. Écouter un podcast, je suis abonné à pas mal de podcasts que je suis très souvent. Voilà. Et ensuite, voilà, utiliser Google surtout quand on a des demandes, des trucs particuliers, on peut faire des recherches et c'est toujours important. Et on a très souvent de réponse à ces questions.
Super, merci. Là, on va passer à la première partie de l'interview. Et cette troisième partie, je crois, elle va être consacrée beaucoup plus à toi, à tes initiatives, tes projets et surtout les services que tu proposes en fait. Avec Azazara. Donc déjà, parle-nous maintenant de tes produits et de tes autres initiatives en fait, qui te rapportent de l'argent et à toi et à toute l'équipe d'Azazara.
Bon, aujourd'hui, à Azazara, on développe total 5 produits, mais là actuellement on a 2 produits qui sont vraiment vraiment opérationnels. Et les autres produits, on les travaille là-dessus, on est en train de faire des travaux de refonte vraiment profonde et tout, qu'on va relancer très bientôt. Alors les 2 produits sur lesquels on est plus concentré actuellement, il y a principalement Killybot, qui est une plateforme qui permet de créer des chatbots Facebook Messenger, d'automatiser une bonne partie de sa relation client, que ce soit sur Facebook et très bientôt sur Instagram également. également. Ensuite, on a Numwiz, qui est une plateforme qui permet d'obtenir des numéros virtuels pour tout ce qui est service client et vérification d'identité. Donc, par exemple, vous avez envie de vous inscrire sur WhatsApp, vous n'avez pas envie de fournir votre numéro de téléphone personnel, vous pouvez vous rendre sur Numwiz. Vous avez un numéro de téléphone qui est fourni instantanément. Vous pouvez procéder à la vérification sur WhatsApp. Et c'est également utile lorsque vous avez un service client pour pouvoir vous adapter en fait aux réalités. Lorsque vous êtes par exemple au Bénin et que vous offrez des services en France, les clients se sentent plus en confiance quand ils vont peut-être discuter avec votre service client via WhatsApp avec un numéro de téléphone français. Donc il y a Numwiz qu'on propose également qui fournit ce genre de numéro. Alors en tant qu'initiative qui rapporte de l'argent, bon, actuellement on est concentré sur ces produits là, c'est principalement à partir de là qu'on fonctionne et tout. Après, individuellement, on a aussi d'autres activités que chacun d'entre nous mène à titre individuel en parallèle de ce qu'on fait, parce que c'est pas facile et tout de pouvoir vraiment vivre de ce qu'on fait. Donc du coup il faut quand même arriver à joindre plusieurs choses pour atteindre un certain niveau, un certain confort et tout. Donc bon, moi à titre personnel, j'offre de temps en temps des services, que ce soit en tant que consultant ou quelques formations que je fais de temps en temps. En parallèle de ça, bon, je me suis un peu intéressé à la crypto-monnaie. Bon, après, c'est pas des choses sur lesquelles je suis très focus, puisque crypto-monnaie, il faut beaucoup de temps, il faut être en train de suivre l'actualité. Et donc voilà un peu ce que je fais un peu comme initiative. Mais là actuellement, comme je le dis, c'est vraiment être focus en fait sur Axazara pendant un bon moment et tout, et ensuite après peut-être se lancer dans d'autres aventures.
Super. Alors comment ça se passe par exemple quand un client joue pour un service? Quelle est la procédure que vous avez en place qui vous permet de satisfaire le client et de vous assurer surtout que ses besoins ont été?
Alors déjà pour découvrir l'ensemble des produits ou des services qu'on propose, vous pouvez directement vous rendre sur www.axazara.com. Vous pouvez aussi directement taper Axazara AXAZARA sur Google. Vous allez voir notre site. Vous pouvez directement voir l'ensemble des produits, découvrir l'équipe, en savoir plus par rapport à Axazara directement sur notre site. Et à partir de là, vous pouvez être redirigé vers les sites web de chaque produit spécifiquement. Alors, en termes d'expérience client, aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur dès le départ, c'est d'offrir la meilleure expérience client possible à chacun de nos clients, à chacun de nos utilisateurs. Donc en ce sens, on a beaucoup travaillé, on continue de travailler et à faire certains investissements en ce sens pour offrir la meilleure assistance possible. Donc là, on a une assistance par live chat. Donc lorsque vous êtes sur nos sites, vous avez un live chat par lequel vous pouvez discuter avec un agent du support client. Et aussi, on a un support téléphonique, on a une ligne fixe que vous pouvez appeler pour vous faire assister. Et enfin, on a également un espace de meeting par lequel vous pouvez réserver un meeting avec l'un des membres de nos équipes pour vous faire assister dans un call, un appel vidéo directement, où on va peut-être partager nos écrans avec vous pour vous montrer comment procéder et tout. Mais surtout, c'est que ce qui nous tient à cœur, c'est la satisfaction des clients, et on œuvre vraiment en ce sens pour permettre à chaque client. Et d'ailleurs, par exemple, dans notre équipe, tout le monde fait du service client. Donc, vous pouvez même venir dans le live chat et vous allez discuter avec moi ou pouvez discuter avec n'importe qui. Parce qu'on veut vraiment être en contact avec les clients, comprendre leurs besoins et pouvoir satisfaire à leurs besoins et tout.
Super. C'est intéressant pour moi. Je crois que l'accès en fait au service, je vais parler de l'accueil plus ou moins, et d'ailleurs très bientôt, je crois, moi aussi j'avais eu quelques soucis par rapport au numéro en temps et j'ai pris pas sur live pour discuter avec vous. Donc, pour finir, pour des gens qui voudront venir se joindre à vous ou à toi principalement pour des besoins spécifiques après cette interview, comment est-ce qu'ils font pour me joindre?
Alors, pour les gens qui ont envie de me joindre, moi, j'ai un mail elias.elima@axazara.com. Donc ça, c'est mon mail professionnel et tout, par lequel les gens peuvent me joindre assez rapidement et tout. Et donc ça, c'est... Après, je suis également également sur Facebook Elias Elima. Je suis également sur LinkedIn et également sur Twitter Elias Elima Parkway. Donc voilà un peu les différents canaux par lesquels les gens peuvent me joindre. Alors actuellement, très souvent les gens demandent un numéro WhatsApp. Là, je n'utilise pas trop WhatsApp. Je suis plus présent d'ailleurs sur WhatsApp comme ça parce que ça prend parfois un peu trop de temps. Mais je consulte régulièrement mon mail et je suis très actif sur Twitter surtout. Twitter, Facebook, pas très actif là-bas ces derniers temps.
D'accord. Bah écoute, merci à toi. Merci vraiment pour ces conseils. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il est rare de rencontrer des gens de temps à autre, vraiment discuter de leur business et tout. Il y a d'autres qui, plus ou moins, n'ont pas de temps pour ça. Il y a d'autres qui ne veulent juste pas. Mais toi, tu as accepté l'invitation. On a eu des soucis avec l'interview, on a repris. Je tiens vraiment à te remercier déjà pour le temps que tu nous as accordé et surtout pour l'attention. Parce que bon, c'est pas donné à tout le monde. Ça fait vraiment énormément plaisir de passer tout ce bon temps avec toi. Moi, j'en ai appris sincèrement et je crois que les gens également en ont tiré profit. Donc, on a parlé en gros de start-up, de business, de produits, de comment on lance, on crée, comment on cherche le financement et tout ça. Merci une fois encore avant de terminer avec ce podcast, avant de terminer ce podcast avec toi. Je voudrais que tu laisses un message là à la jeunesse qui nous entend, qui a, on dirait, un peu peur de vous.
Alors, déjà aussi, merci beaucoup à toi de m'avoir invité sur ton podcast et tout. Ça fait vraiment plaisir d'avoir aussi cette occasion de quand même partager le peu d'expérience qu'on a avec les gens de notre environnement, de l'écosystème et tout. Alors, si j'ai un petit message à passer, c'est que peu importe qui vous êtes, si vous êtes en Afrique, peu importe où vous êtes, si vous avez vraiment une passion, vous avez vraiment quelque chose que vous avez envie d'accomplir, surtout, c'est de ne pas vraiment laisser les gens vous décourager, c'est de vous donner les moyens qu'il faut pour le réaliser. Et surtout, si vous êtes en Afrique, c'est de vous dire qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui en Afrique. C'est vrai, c'est pas facile. On est dans un écosystème qui va avec sa part de difficultés et aussi avec des avantages non négligeables qu'on peut pas ignorer en fait. Et donc, c'est de se dire qu'on peut changer les choses à notre échelle surtout et avec les moyens qu'on a. Et voilà, merci beaucoup. C'est tout.
Merci à toi, Elias. Là, on est à la fin de l'épisode. Je te dis à la prochaine sur d'autres projets plus innovants. Salut.
Ok, à la prochaine. Merci.
Merci. Nous sommes à la fin de cet épisode. Si vous avez apprécié l'émission et que vous souhaitez nous soutenir, partagez-la avec d'autres personnes, publiez-la sur les réseaux sociaux ou laissez une note et un avis sur la plateforme ici. Nos dernières nouvelles seront disponibles sur tous nos comptes réseaux sociaux, c'est trafiquand@traficuand ou sur notre site internet www.trafiquand.com. À samedi prochain pour un nouvel épisode. Prochainement.
Ok, d'accord, oui. C'est vrai que j'ai eu un parcours purement littéraire. En effet, comme tu l'as dit, j'ai eu un bac à deux. Je dirais que déjà, après le bac, je n'avais pas trop d'options.